Qui dit économie forte dit également armée forte. Le Nigeria de Buhari sait qu'il est dans le collimateur et que l'axe occidental veut s'emparer du secteur militaire nigérian au complet. Un exercice naval de grande envergure mené par les marines nigériennes, américaines, britanniques, italiennes et françaises s'est déroulé dans le golfe de Guinée pour lutter contre la piraterie importée par l'Occident pour monopoliser le golfe de Guinée. L'exercice Obaganme Express d'une durée prévue de 5 jours a commencé le 20 mars à Lagos, la capitale économique du Nigeria, selon Souleymane Daoun, le porte-parole de la marine nigérienne. Des manœuvres qui visent à améliorer la lutte conjointe contre la piraterie et les autres activités illégales maritimes dans le golfe de Guinée, a-t-il précisé. 6 navires, 2 remorqueurs, 2 hélicoptères et un avion de patrouille maritime de l'armée nigérienne ont été déployés aux côtés de navires de guerre des marines américaines, britanniques, françaises et italiennes. Les pays de la côte, donc du golfe de Guinée, ont une épée de Damoclès sur la tête, comme l'a pu le constater le Sénégal. Mais le Nigeria ne s'arrête pas à la flotte marine, comme veut lui imposer cet axe occidental, qui a cherché à le renverser avec une sorte de révolution de couleur à la démocrate américaine. Abuja chercherait également à renforcer sa force aérienne en ambitionnant de devenir une puissance régionale militaire aérienne. L'officialisation de la commande de 24 M346F-A pour équiper la force aérienne est une question de temps. Le coût du contrat serait estimé à 1,2 milliard de dollars. La Nigerian Air Force poursuivrait donc ainsi son partenariat privilégié avec le constructeur notamment italien Leonardo après les précédentes commandes d'hélicoptères AW-109, AW-139 et d'un AW-189 en configuration présidentielle. La NAF dispose également de 2 appareils de transport G-222 et un C-27J portant le numéro de série CSX-62-319 a été photographié début décembre par un spotter sur le site de l'usine Leonardo à Torino, Cassel, avec un liseré bleu caractéristique des forces aériennes nigériennes. Mais l'acquisition donc de cet appareil par la NAF n'est toujours pas confirmée. Pour l'heure, donc les 6 premiers appareils pourraient être livrés en 4 signatures avant la fin du troisième trimestre 2021. Ces nouveaux appareils viendront grossir donc les rangs de la Nigerian Air Force en pleine expansion. Ils remplaceront les Alpha Jet AE en fin de vie. Les M346 viendront s'intercaler entre les 12 EMB 314 Super Turcano commandés en 2019 et les 3 JF-17C Thunder en service depuis 2016. Appareils polyvalents, ils compléteront la lutte anti-guérilla menée par les Super Turcano dans le nord du pays et offriront un soutien aérien au Thunder pour la défense des frontières. Avec cet achat, la NAF alignera la force aérienne la plus puissante de la région, d'autant qu'elle dispose en plus d'un parc de drones chinois CH-3 et CH-4 et Wing Lung 2 armés. Son concurrent le plus sérieux, le Tchad, n'aligne quant à lui que 3 MiG-29SM et 6 Su-25, donc, ainsi que des appareils loués à des sociétés militaires privées sud-africaines. Les pays de la côte du golfe de Guinée participent certes aux exercices navals en tant qu'observateurs, car le plus important pour eux, c'est de pouvoir sécuriser leurs territoires respectifs. Les drones achetés à Pékin est également donc la preuve que les États-Unis ne voulaient en aucun cas qu'Abuja renforce sa flotte aérienne. Les chefs d'État savent que les exercices navals ne leur serviront à rien, car les groupes terroristes en Afrique sont bel et bien présents à leurs frontières et non pas dans les eaux. Certains pays de la côte sont prêts à combattre la piraterie maritime en s'alliant ensemble, comme l'ont prouvé donc le Cameroun et la Guinée équatoriale, qui ont tous deux effectué une riposte coordonnée, permettant ainsi de mettre en déroute plusieurs pirates qui, dans la nuit du lundi 8 février, avaient tenté d'attaquer un tanker à environ 115 nœuds au large des côtes du Cameroun. Ce qui fait que les pays de la côte du golfe de Guinée sont tout à fait aptes à combattre la piraterie maritime. Mais là où ils doivent se concentrer, c'est surtout pour combattre le terrorisme importé par l'Occident afin de déstabiliser ces pays. Pour rappel, le patron de la DGSE avait clairement annoncé que les groupes terroristes basés au Sahel allaient étendre leurs attaques aux pays de la côte du golfe de Guinée. Donc, à quoi peuvent leur servir d'effectuer des exercices navals aux côtés de leurs ennemis occidentaux? Pour ce faire, un exercice conjoint entre pays africains pourrait leur apporter beaucoup plus. Le renforcement de la flotte aérienne nigérienne va lui permettre donc de devenir une puissance aérienne dans la région et pourquoi pas montrer que les bases aériennes américaines et françaises déployées au Niger ne servent pas à lutter contre le terrorisme comme l'ambitionnent les pays africains et leurs alliés. Les masques sont désormais tombés après avoir longtemps joué à cache-cache, prétendument donc aider les Maliens dans leur lutte contre le terrorisme, un terrorisme créé de toutes pièces par la DGSE française, la CIA, le Mossad et autres services secrets occidentaux, puis avoir été démasqué dans son sale jeu. Barkhane en est désormais à avancer, le visage démasqué, il est vrai. Qu'au Mali, rien ne va pour la France. Et cette junte au pouvoir que la France a propulsée au sommet au terme d'un putsch militaire, rien que pour relancer la dynamique de démembrement du pays, ne ratisse pas large et que même au sein des FAMA, la junte ne fait pas l'unanimité. Puis cette junte sait qu'elle ne peut s'opposer à la volonté du peuple. Les Maliens veulent la réconciliation nationale, le bon voisinage avec le Maghreb et le Sahel. Et cette zone de trois frontières que l'axe US-OTAN tente par terrorisme et agents interposés, transformé en une base d'instabilité au Sahel pour étendre sa présence au Niger et au Burkina Faso, les Maliens veulent la faire à tout prix. Et à tout ceci, Barkhane ne peut plus s'opposer, d'où le face-à-face direct, ces attaques qu'elle lance aux populations qu'elle prétend soutenir. Voici cette info qui prouve le modus operandi d'une Barkhane qui utilise non pas, comme le raconte la presse mainstream, des mitraillettes pour mener ses chasses aux Sahéliens, mais bien des drones. Voici l'info de l'AFP, djihadiste selon Barkhane, chasseur selon des locaux. Les versions se contredisent dans la frappe de Talataï. Donc 6 jeunes ont été tués jeudi dans le nord-est du Mali dans une frappe décrite par la force française Barkhane comme visant des djihadistes, alors que des notables locaux parlent de simples chasseurs tués alors qu'ils traquaient le gibier. 6 jeunes de Talataï, situés entre Gao et Menaka, dans la région frontalière du Niger, ont été enterrés jeudi après avoir été frappés depuis les airs, ont rapporté ces notables. Il s'agit là d'un groupe de jeunes, dont des mineurs, qui ont décidé de passer la journée en dehors du village de Talataï, à bord de 3 motos et armés d'un fusil de chasse pour tirer des lapins et des perdrix, a dit un correspondant d'un média, le maire de la localité, Mohamed Assaleh Ahmad. 4 avaient moins de 16 ans, 2 d'entre eux donc avaient 18 et 20 ans, a-t-il dit. Et l'AFP d'ajouter, un conseiller communal a dit avoir vu un drone faire feu à l'ouest de Talataï. 2 autres notables, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité, ont fait état d'une frappe aérienne sur la foi de témoignages. Les 3 notables ont tous décrit les jeunes comme des chasseurs partis à moto. La force anti-djihadiste française Barkhane a de son côté publié dans la soirée un communiqué relatant une toute autre version de ce qui semble être le même événement. Le moment en fin de matinée, la localisation à 60 km au nord d'Indéliman, selon Barkhane, concorde. Au Niger, au Burkina et au Mali, Barkhane tue les civils à coups de drone, mais cela ne va pas durer. Les Maliens sont déterminés à expulser Barkhane et les représailles ne tarderont pas. Saper les ventes de pétrole des États africains, tenter de les faire mettre sous contrôle de l'ONU, prolonger au cœur de l'économie les dégâts de la déstabilisation, notamment des biens mal acquis, mais aussi saper les marchés pétroliers des États concernés et le prix de vente de leurs hydrocarbures. En bref, une opération infiniment plus vaste que les biens mal acquis en Afrique et plus dangereuse se prépare. Pourrait-on dire que Biden et Harris préparent un super printemps arabo-africain dans le golfe de Guinée? Une analyse du géopoliticien Luc Michel.
Écoutez, moi je vais aller au-delà des élections. Les élections, ça devrait être, si on suivait les Occidentaux, ça devrait être la grande fête de la démocratie. Mais dans la réalité, ce qu'on appelle les révolutions de couleur, c'est l'exploitation. C'est le grand moment, ce sont les élections, pour être un point d'orgue dans la déstabilisation d'un pays. On est actuellement dans un contexte géopolitique particulier, c'est l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Biden, on pensait que ça allait être un retour aux années Obama. En fait, c'est une espèce de mix avec ce que les Américains ont produit de pire depuis 20 ans. C'est le retour à l'interventionnisme militaire des années Bush 2. C'est la déstabilisation, justement, par les révolutions de couleur avec des années Obama. C'est enfin la déstabilisation brutale des années Trump. On voit une radicalisation des Américains dans tous les domaines, sur tous les fronts, contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran, et bien entendu, en Afrique. Il y a quelque chose qui se passe qui est fondamental, c'est la réconciliation entre Paris et Washington. Pendant toute l'année 2020, Paris était en froid avec Donald Trump et Trump s'opposait d'ailleurs en CDAO, par exemple, au plan de Trump et de Ouattara. Aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise Biden? C'est que Biden, il a nommé un ministre des Affaires étrangères, il s'appelle Blinken, qui est un francophone et un francophile. Biden lui-même insiste sur le fait que sa famille est d'origine française, protestante française au XVIe siècle. Et enfin, la vice-première ministre présidente Kamala Harris, elle a entamé une réconciliation à marche forcée avec Macron. Certains observateurs parlent de romance diplomatique. Qu'est-ce qui se passe? La France est en train de redevenir le shérif du bloc occidental et américain. Et cette réconciliation, elle va se faire sur le dos des Africains. Derrière ce nouveau printemps arabo-africain qu'on nous prépare, qui est en train de se préparer à Washington, il y a trois grands acteurs. Il y a tout d'abord les réseaux du milliardaire américain George Soros avec ses complices Bill Gates et Mo Ibrahim. Ce sont les gens qui sont aux manettes de la déstabilisation dans de nombreux pays depuis 20 ans, et en particulier en Afrique depuis 2010. Il y a secondement le réseau des ONG, elles sont proches aussi de Soros, mais qui soi-disant combattent la corruption. Il y a Transparency International, Transparency France, Sherpa et Anticor. Et enfin, il y a troisième chose, évidemment, dans cette affaire, il y a les milieux traditionnels, il y a un média, ce qu'on appelle les nouveaux médias africains, il y a en particulier un journal à Paris qui s'appelle Le Monde, qui est l'édition française, qui s'appelle Le Monde Afrique. Le Monde, il est officiellement financé par une fondation sud-africaine de Georges Soros, c'est sur son site, qui s'appelle Osiwa. C'est la même fondation qui vient d'être interdite d'activité au Sénégal. Le Monde est également financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Il est en pointe dans une opération de déstabilisation, et c'est là que j'arrive à notre sujet, dont les pointes actuelles sont le Tchad, sont le Congo-Brazzaville et sont la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, malgré le deuil qui la frappe, il n'y a pas de respect chez les vautours impérialistes, il est l'objet d'une déstabilisation. Le Monde, par exemple, utilise la catastrophe de Bata pour accabler le président Obiang. Comment cette déstabilisation se passe-t-elle? Plutôt que de s'en prendre directement aux chefs d'État, on s'en prend à leur famille. On s'en prend à Madame Hinda Déby et à la belle famille du président Déby. On s'en prend aux enfants du président Sassou Nguesso. On s'en prend au vice-président et à la famille de Constance Mbangué de Obiang en Guinée équatoriale. Derrière tout cela, il y a un ciblage de la région du Golfe de Guinée qui est l'objectif principal, à part l'Éthiopie qui est dans la côte de l'Afrique. De quoi s'agit-il évidemment dans le Golfe de Guinée? C'est une affaire, un dossier qui sent le pétrole et le gaz à tous les niveaux. En 2018, ce groupe dont je vous parle, d'ONG, en particulier les ONG de Maître Bourton, avait tenté de lancer un nouveau volet de l'affaire des biens malins. C'était tout d'abord une opération lancée en Suisse contre la famille Sassou Nguesso, contre le Congo, par une ONG qui s'appelait alors la Déclaration de Berne, qui s'appelle aujourd'hui Open Eyes, financée aussi par Soros. Et puis au Canada, on a tenté de lancer un volet, en particulier contre la famille du président tchadien. Si les biens mal acquis, c'était des accusations de corruption, on peut dire que l'affaire qui était lancée en Suisse et au Canada, on pourrait l'appeler le dossier du pétrole mal vendu. Qu'est-ce que les gens de Bourdon et Soros accusent ces trois pays? C'est de mal vendre et de mal exploiter son pétrole. Ils ont évidemment, les bons apôtres, la solution. Ils proposent que la vente du pétrole, écoutez-moi bien, soit soustraite au Tchad, au Congo-Brazzaville, à la Guinée équatoriale ou au Gabon, qu'elle soit confiée à une agence spéciale de l'ONU et sans doute que la vente et l'exploitation des champs pétroliers soient soustraites au gouvernement de ces États. Voilà ce qui est en train de se passer. Pendant toute l'année 2019-2020, l'administration Trump, elle a continué les vieux dossiers, mais on peut dire que ce n'était pas la priorité de Donald Trump. Maintenant que Kamala Harris arrive au pouvoir, c'est elle la réalité du pouvoir. Qui c'est Joe Biden? C'est le plus vieux des présidents américains. C'est un président diminué physiquement. Vous avez tous vu avant-hier comment il est tombé en montant dans l'avion présidentiel. C'est un homme fatigué. C'est cet homme-là pourtant qui veut affronter le monde. Les Chinois, Vladimir Poutine, mais pour l'Afrique, évidemment, il ne manque pas d'énergie. La véritable patronne, c'est Kamala Harris. Kamala Harris, qui c'est un peu George Soros qui s'installe à la Maison Blanche. Kamala Harris, c'est une proche d'Alexander Soros, son fils, qui dirige l'International Crisis Group à Bruxelles. Lorsqu'elle était procureure générale de Californie, elle a empêché des poursuites en matière fiscale et financière contre le fils Soros. Depuis, c'est une protégée de la famille. C'est donc l'ennemi qui est installé à la Maison Blanche. Pour la petite histoire, elle complote aussi contre le Cameroun. C'est une des dirigeantes du lobby pro-amazonien aux États-Unis. C'est elle qui a fait recevoir les amazoniens au Congrès ou à la Common House du Canada, où on les a présentés comme les représentants légitimes des populations anglophones du Cameroun. Donc, au milieu de tout cela, les élections qui ont lieu au Tchad, au Congo-Brazzaville, presque le même jour, en tout cas en même temps, les élections qui vont avoir lieu en 2023 en Guinée équatoriale, qui sont peut-être les plus importantes du Golfe de Guinée, puisque c'est la succession pacifique du président Obiang qui va avoir lieu, ces élections, c'est le prétexte. Si vous regardez les agendas électoraux, vous voyez que dans la région, tous les États, sans exception, vont avoir des élections entre 2021 et 2023. L'élection, comme je l'ai dit, c'est un point d'or. Maintenant, les présidents africains, ce ne sont plus les présidents africains d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans, où il n'y avait pas le choix. C'était surmonter, faire face à la révolution de couleur, la surmonter ou succomber. Aujourd'hui, le dossier géopolitique a changé. Les Russes sont là, les Chinois sont là, les Iraniens font une arrivée spectaculaire en Afrique où ils soutiennent les régimes panafricanistes. Et en particulier, je vous parlais du pétrole, les Iraniens et les Russes sont arrivés dans le pétrole, par exemple au Sénégal, au Tchad, ou encore en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, la régie du gaz, elle a comme actionnaire minoritaire les Russes de Gazprom. Malabo a organisé en 2019 le sommet des États producteurs de gaz, ce qu'on appelle l'OPEP du gaz. Les Russes, ils arrivent aussi dans l'exploitation du pétrole. Ils sont en train de disputer aux multinationales anglo-saxonnes les champs de pétrole de Changomar au Sénégal, par exemple, et d'autres. La Russie, en fait, elle est aussi présente au Tchad dans l'électrification du pays. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, il y avait un plan fumeux de Jean-Louis Borloo, le Français, qui voulait empocher 5 milliards d'euros, écoutez-moi bien, pas de francs CFA, il s'agissait soi-disant d'électrifier avec des plans de la France et de l'Union européenne. Ça n'a pas marché. Les Russes, ils arrivent avec une technologie gagnant-gagnant, et l'électrification du Tchad, qui est essentielle, qui a été lancée par le général, donc Idriss Déby, devenu maréchal, lors du sommet entre le Tchad et la Russie en juillet 2019 à Djamena, eh bien, ce sont les Russes qui sont aux affaires. C'est cela qu'il faut retenir. On voit donc des présidents soutenus diplomatiquement. C'est fini les coups de force au Conseil de sécurité. Les Chinois et les Russes, ils disent non. Ils viennent encore, par exemple, de défendre Touadéra dans la question des casques bleus. Et donc, tous ces présidents, aujourd'hui, ils ont de l'oxygène géopolitique pour résister. Ils jouent aussi avec l'intelligence. Je terminerai là-dessus. Il faut saluer l'intelligence d'Idriss Déby. Non seulement Idriss Déby a anticipé le problème, il parcourt tout le pays depuis des mois, mais les Occidentaux avaient un plan pour l'élection. C'était de présenter à un jeune, un candidat unique contre Idriss Déby, s'ils avaient choisi l'opposant Succès Masra. Succès Masra n'a pas été accepté comme candidat par les autorités tchadiennes, mais parce que quand même c'est un jeune tchadien qui a un avenir, Idriss Déby lui a tendu les bras et l'a spectaculairement reçu. Idriss Déby, il veut intégrer la jeunesse, pas qu'elle soit marionnettisée par les Occidentaux. C'est un peu la même chose qui se passe dans d'autres pays. Et il faut souligner que ces plans occidentaux qui n'en sont qu'à leur début, ils vont en tout cas, à l'occasion de ces élections, connaître un coup d'arrêt.
Burkina Faso, le gouvernement présente son projet de construction d'une voie ferroviaire reliant le Burkina au Ghana. Le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine, Vincent Dabilgoua, co-animé avec le ministre en charge du développement du chemin de fer du Ghana, une conférence ce jeudi 25 mars 2021 à Ouagadougou. L'objectif était de donner des détails sur l'état d'avancement du projet d'interconnexion ferroviaire Burkina-Ghana. Ce projet est une initiative d'environ 4,7 milliards d'euros qui relie la ville de Ouagadougou au port de Tema situé au Ghana. Au Burkina Faso, il sera long de 320 km et 782 km au Ghana. La filière Evehicole en Côte d'Ivoire, leader en Afrique, a produit l'an dernier près d'un million de tonnes de caoutchouc de naturel, soit 80% du latex du continent, et pointe désormais au quatrième rang mondial derrière les pays asiatiques, notamment la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel est l'organe en charge de la filière Evehicole en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, petit pays producteur de caoutchouc naturel il y a une décennie, est en train de prendre sa place au sein des grands producteurs mondiaux, a affirmé Eugène Crémien, président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel. Acquise en 2004 par Resolute Mining, la mine d'or Bibiani au Ghana est en régime de maintenance et entretien depuis lors. La compagnie a réalisé différentes études sans jamais lancer l'exploitation, finissant même par vendre le projet à un groupe chinois en décembre dernier. Au Ghana, l'Australien Resolute Mining ne détient plus les droits d'exploitation minière sur l'or de Bibiani. Dans un communiqué publié le 24 mars, la compagnie a en effet indiqué que le gouvernement a résilié son bail minier. Resolute déclare avoir appris cette décision inattendue à travers une lettre reçue le 23 mars. Il faut dire que rien ne permettait de prédire cette résiliation, car le gouvernement n'a récemment refait aucune annonce à propos de problèmes avec la compagnie. Le Nigeria a commencé les essais cliniques de ses propres vaccins contre le coronavirus. En janvier 2021, le ministre de la Santé avait annoncé le déblocage de 25 millions de dollars pour développer localement des vaccins contre le Covid-19. À terme, le pays veut vacciner 140 millions de personnes pour développer une immunité collective. Au Nigeria, le programme gouvernemental de développement de vaccins contre le Covid-19 semble avancer progressivement. Le mardi 23 mars 2021, le secrétaire du gouvernement fédéral, Boss Mustapha, a annoncé que deux vaccins sont en cours de développement contre le virus.